Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir nombreux. Donc moi je suis Jean-Marc Galland, je suis chercheur au Centre Internet et Société. Donc c'est moi qui vais animer la séance avec Isabelle Berébiz-Hoffmann, qu'on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jean-Marc et bonjour tout le monde.
Grand merci d'être avec nous. Donc Isabelle, tu es sociologue, directrice de recherche au CNRS, au sein du laboratoire LISE, laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique. Tu es spécialiste des transformations du travail et de l'entreprise. Je parle sous ton contrôle, hein, tu me corrigeras. Tu travailles sur les formes productives alternatives dans les mondes numériques, mais aussi parmi les thèmes qui t'intéressent autour de l'économie collaborative et des communs. Je crois, Isabelle, que tu reviens d'un long terrain du côté de Boston, près de 2 ans, dans l'écosystème des makers, pour le dire vite. Et tu as publié, à la suite de cette expérience, avec Marie-Christine Bureau et Michel Lallemand, Makers, enquête sur les laboratoires du changement social au Seuil, en 2018. Donc, je mettrai le lien dans le chat. Bah écoutez, voilà pour ce qui est d'Isabelle. Pour le déroulé de la session elle-même, donc Isabelle a accepté de tronçonner sauvagement son intervention liminaire en 3 morceaux. Et donc l'idée de ça, c'est de nous permettre, après chaque morceau, d'interagir un petit peu, de discuter, de poser des questions. On est ensemble jusqu'à 15h30. Oui, une dernière chose, la façon de poser des questions, comme on est assez nombreux et une fois de plus, on s'en réjouit. Deux façons de poser les questions. Vous pouvez, au fil de l'eau, les mettre dans le chat et du coup, bah, c'est moi qui les sélectionnerai et qui les poserai à Isabelle. Ou bien, vous pouvez aussi, au moment du temps d'échange, prendre la parole, peut-être lever la main si vous savez le faire dans Zoom, et si vous ne savez pas le faire, allumez votre caméra et faites des grands signes. Voilà, bah écoutez, bonne session à tous et encore un grand merci Isabelle, je te passe la parole.
Merci beaucoup Jean-Marc. Ce que je vais faire, j'ai enlevé le partage d'écran. Ce que je propose, si on fait ce découpage, c'est d'enlever le partage d'écran pour que les gens puissent, s'ils veulent poser leurs questions en direct, puissent se reconnecter au Zoom et qu'on se voit. Mais bon, on verra. Donc, d'abord, je suis très contente de revenir parler au Centre Internet et Société, parce que vous m'aviez déjà invitée une ou deux fois au début des journées, et ça a toujours été des moments d'échange passionnants, parce qu'ils sont interdisciplinaires et sur des objets en émergence, et que effectivement, j'ai toujours trouvé très intéressant, en fait, l'aventure qui est en train de se faire avec le centre pour essayer de construire des mondes communs, en fait, de recherche autour d'objets qu'on aborde par des biais très, très différents, tous. Donc, moi, je suis là en sociologue du travail et des organisations. En sociologue du travail et des organisations, je fais du terrain avec des équipes, avec des gros projets de recherche. Maintenant, depuis plus de 30 ans, en fait, dans les mondes du numérique, j'ai commencé sur les SS2I, j'ai fait les dot-com, la crise, et puis j'ai ensuite travaillé plus récemment, jusqu'en 2017-2018, en fait, sur les makerspaces, les hackerspaces et les Fab Labs, dans l'écosystème bostonien notamment, mais aussi un peu partout dans le monde. Et puis aussi sur un mouvement critique qui commence à se développer sur la côte est américaine des machine learners et dans la Silicon Valley, donc des travailleurs d'intelligence artificielle à un moment où avait un discours critique qui se retournait. Donc pour dire d'où je parle, je fais du terrain et j'essaye. Vous m'entendez toujours? Oui. Je travaille. À la fois sur les récits utopiques qui peuvent exister dans le numérique, mais depuis très longtemps, que ce soit les utopies du libre, l'utopie d'Internet, etc., sans avoir foi de terrain sur le logiciel libre. Il y a d'autres gens qui ont fait ça, mais je travaille sur ces récits. Je travaille sur des expérimentations, c'est-à-dire en pratique, des formes productives qui se font, des développeurs qui se mettent en coopérative, etc., des lieux. Et puis, je travaille sur la critique, c'est-à-dire les catégories des acteurs et des chercheurs en sciences sociales qui vont, de façon normative ou non, poser un regard sur les plateformes, Le capitalisme des données, les coopératives ou d'autres lieux de l'économie du libre. Donc c'est ça que je vais garder dans ce que je vais vous présenter, puisque dans cet exposé, je vous propose de revenir en fait sur l'histoire récente de deux cas d'utopie productive au départ, en tout cas que j'appelle des choses que j'appelle utopie productive, l'une sur les mondes makers, donc en essayant d'en tirer des critères de bilan. Et donc, de façon plus large, les ateliers de production collaboratifs ouverts ou les communs productifs. Et de l'autre, sur le deuxième cas que je vous ai cité, les travailleurs de l'intelligence artificielle aux États-Unis et leur tournant critique et leur action collective depuis 2018. Dans cette première partie, je suis dans mon introduction. Donc, dans cette partie introductive, je vais continuer à faire deux ou trois remarques sur le regard et sur les termes que j'emploie. La première chose, pourquoi utiliser le terme d'utopie productive? Alors, d'abord, ça a une longue histoire en sciences sociales et en sciences humaines. Qui remonte au moins au début du 19e siècle, au Saint-Simonisme, au Fouriérisme et aux utopies socialistes, qui rêvent par exemple d'inventer une entreprise qui fonctionnerait comme une société par action, c'est-à-dire notre SA d'aujourd'hui. C'était une utopie socialiste au départ. Pourquoi? Parce que les actions pourraient être partagées entre tous les ouvriers et travailleurs et être un système complètement égalitaire qui romprait le lien entre capital et travail. Et donc, en fait, on a cette histoire dont on hérite dans les catégories d'utopie productive, qui est comment rétablir l'équilibre entre capital et travail, première chose qui date de 1830, 1840. Et puis, deuxième, quand arrive la forme grande entreprise américaine, c'est-à-dire avec ses divisions, ses usines, ses filiales, ses lignes de produits, et son management et sa rationalisation du travail, on a un triptyque d'articulation autour desquelles vont s'articuler les utopies productives qui sont capital, management, travail. Je vais y revenir à dirigeant travail. Les manuels d'économie politique bougent à ce moment-là. Avec l'arrivée d'Internet, je vous saute beaucoup de temps, l'utopie du travail libre, l'utopie d'un travail libre, d'une organisation et d'un pouvoir distribué, qui poussait un cran plus loin donc les aspirations à des modes de production alternatifs par rapport au capitalisme vertical, est en permanence présente dans les mondes du numérique, depuis le début, depuis les années 30, 40, dans la Silicon Valley, où il y a déjà des coopératives de patrons communistes qui redistribuent le capital, dès les années 40 dans la Silicon Valley. Mais ces récits, ces modèles d'utopie productive varient au cours du temps, justement, si on fait un peu d'histoire. Ils varient au cours du temps, ils ont une historicité. À la fois, la variation se fait à la fois dans les récits, c'est-à-dire dans le discours, mais aussi dans les acteurs qui les portent. C'est-à-dire, on voit très bien que quand on est dans les dernières années, le discours a été récupéré par les plateformes, notamment, le discours de liberté, d'enchantement de la liberté du travail. Mais par les acteurs et aussi par les expérimentations, c'est-à-dire les formes pratiques. Et on est aujourd'hui avec les communs productifs, après 15 ans ou 20 ans de logiciels libres, dans un moment d'explosion, d'expérimentation pratique. Que permet Internet? Que permet le numérique avec des outils de collaboratifs nouveaux qui permettent une horizontalité, une décision à 100 ou 1000, à plusieurs immédiates, etc. Les coûts de l'information qui se sont multipliés. Donc, je vais garder ces trois thèmes, c'est-à-dire ces trois niveaux d'analyse, celui des récits qui viennent des acteurs, des observateurs, des prophètes, des promoteurs, des modèles, celui des pratiques et des formes productives qui viennent de l'enquête, du chercheur, ou des données ou des rapports qu'on peut avoir, et celui de la critique. En fait, c'est un autre récit qui se superpose au premier récit enchanté et qui émane en fait de catégories réflexives. Ce sont soit des acteurs réflexifs, des courants comme le courant technocritique qui s'est développé aux États-Unis, soit
Il peut, soit elles sont, il y a une normativité qui peut être politique, mais en tout cas, c'est une norme, ce discours critique, il est réflexif et il est ancré dans des catégories embarquées qui empruntent soit au politique, à ce vieux débat capital-travail, ça peut être le marxisme, ça peut être l'exploitation, ça peut être toute une série, l'aliénation, qui sont deux catégories de critiques différentes, mais qui, en tout cas, est un autre niveau de discours. Voilà, je voulais dire ça en introduction. C'est mon premier fil pour lire ces cas et pour lire ces utopies productives. Donc, récit, expérimentation, critique. J'ai un deuxième fil qui est que une partie des utopies productives sont lues souvent à l'aune d'un récit sur l'économie circulaire, sur les circuits courts, sur l'écologie, sur le post-capitalisme. En suivant Gortz, par exemple, qui le premier a dit, on a des moyens aujourd'hui avec des ateliers productifs locaux, notamment, ou avec Internet et avec les hackers, de produire tout le nécessaire sur place. C'est Ecologica en 2007, c'est une utopie. On va pouvoir tout relocaliser, tout reproduire sur place et sortir du capitalisme, qui est un régime vertical d'accumulation et de croissance, avec une séparation entre ceux qui possèdent et qui récupèrent le profit et ceux qui fournissent l'outil de production, c'est-à-dire le travail. Donc, sortir de ce régime de production, c'est un mode de production, c'est un niveau. Ce n'est pas le niveau auquel je vais me situer. Je ne vais pas parler de capitalisme ou d'anticapitalisme ou de post-capitalisme. Je vais parler de réappropriation de la production, de volonté par les travailleurs ou de se réapproprier le processus de production. C'est pour ça que je parle d'utopie productive et pas économique ou autre. C'est-à-dire que, donc là, je vais reprendre mon transparent pour repartager mon écran pour visualiser là où j'arrive. Je suis en train de faire l'introduction, donc parler de l'historicité des récits, des formes et des critiques. Et dans ce cadre-là, oui, alors je n'ai pas le slide, donc je vais le dire à l'oral. En fait, le second fil, c'est que si je ne parle pas de capitalisme et de capitalisme pour les, et de réappropriation, j'ai besoin de concepts ou de notions d'analyse de moyenne portée, ce que j'appelle une mésosociologie. C'est-à-dire, je vais parler de division du travail, je vais parler de pouvoir, de régulation et de coopération. Ce sont des concepts intermédiaires entre l'individu et le macro, les systèmes macroéconomiques. Donc, ces concepts intermédiaires correspondent à un niveau en sociologie qu'on appelle mésosociologie, et leur intérêt principal, c'est qu'ils permettent la comparaison. Ils permettent la comparaison de façon universelle. C'est-à-dire, il y a dans le monde entier, quelle que soit l'activité, des formes de division du travail. Mais il n'y a pas partout un système capitaliste. Donc, les catégories macro ne permettent pas la comparaison universelle, mais ces concepts intermédiaires le prévoient. Donc, deuxième fil, je vais garder ces niveaux d'analyse, coopération, etc. Troisième fil, en fait, et je m'arrêterai là pour cette introduction, je vais poser trois questions, en fait, à mes deux cas. Voilà. Et ces trois questions, ça va être en quoi chacun de ces exemples relève d'une famille distincte plutôt productive dans un premier temps. Où en est-on aujourd'hui? Donc, c'est le bilan raisonné que je vous propose. Et qu'est-ce qu'une entrée par une sociologie donc, de la production et du travail peut nous dire ou peut contribuer à d'autres discussions et débats en cours sur les mondes du numérique, la culture du libre, la gouvernance d'Internet, la régulation des plateformes ou encore le droit et la propriété des données. Donc, je vais essayer de voir si on peut entrer en dialogue là-dessus. Avant de passer au cas des makers, où en fait je suis en train d'y passer, donc je vais prendre un premier exemple, le cas du mouvement maker entre 2005 et 2020. Et je vais d'abord le situer pour une première remarque pour le situer, c'est que le mouvement Maker en fait arrive en même temps qu'une explosion de nouvelles formes productives. Là, ce n'est pas le discours, hein, c'est le réel, c'est les expérimentations qui surgissent depuis une vingtaine d'années. Alors, il y a des expérimentations anciennes, mais qui augmentent en nombre. C'est par exemple les entreprises coopératives. Moi, j'en ai listé 8 là. Je ne vais peut-être pas toutes les analyser maintenant parce qu'on ne va pas avoir le temps. Mais en fait, il y a toute une série de vieux statuts qui sont réactivés, d'entreprises, de rachat d'entreprises par les salariés, de coopératives d'indépendants, comme SmartBee, par exemple. C'est 100 000 salariés quand même, 100 000 membres dans le monde, 9 pays, SmartBee comme coopérative. Il y a les formes plateformes qui arrivent. Je ne vais pas passer de temps là-dessus, tout le monde connaît très bien. Je ne vais pas faire de distinction des plateformes, mais juste différencier entre les plateformes propriétaires et les plateformes coopératives. Et puis, il y a les communs productifs, mais il y a aussi des expérimentations qui se développent tout d'un coup au sein des entreprises classiques, comme par exemple l'entreprise libérée, où on supprime les chefs, on supprime la subordination. Je dis ça pour en fait montrer qu'on est dans un moment d'accélération en fait des récits et des expérimentations d'émancipation, de démocratisation du travail. À partir des enquêtes que j'ai pu faire, donc je vous les ai citées, donc j'ai fait un travail pour essayer de regarder les alternatives qui pouvaient surgir. Et moi, j'identifie en fait 3 vagues d'expérimentation productive qui, à chaque fois, vont porter sur des choses qui peuvent rester, mais qui vont porter sur une façon de libérer le travail et la production de ce qui est vu comme la contrainte principale en contre-modèle. Alors, je l'ai cité tout d'abord, ça a été d'abord se libérer de la hiérarchie, se libérer de la bureaucratie. Ça, c'est l'informalité et les premières coopératives de la Silicon Valley, où on supprime, où l'entreprise libérée aujourd'hui, on supprime les chefs. Deuxièmement, qui est presque concomitant, mais qui je rejoins, c'est de dire qu'il faut sortir de l'exploitation et de la différenciation. Donc, c'est le moment du tous actionnaires. Et dans la Silicon Valley et dans le monde du numérique, où tout le monde a accès à des actions de façon inégalitaire d'abord, plus égalitaire aujourd'hui, ou du tout c'est indépendant. C'est Uber, le discours d'Uber. Et aujourd'hui, et c'est là-dessus où j'interviens, il y a cette revendication d'accès à la production, de démocratisation du processus de production et d'organisation. Voilà. Alors, je ne sais pas où j'en suis par rapport au début, s'il faut déjà faire une pause ici, Jean-Marc, avant de commencer le cas.
Eh bien, écoute...
Parce que si c'est 3 fois 20 minutes... Ou alors je continue et on fait une pause après.
C'est toi qui vois. Peut-être on peut prendre un court instant s'il y a déjà des questions à ce stade-là. Donc, si oui, manifestez-vous. Il n'y a rien dans le chat pour le moment. Je pense qu'on est tous impatients que tu passes au cas d'étude.
Et moi.
Francesca, oui.
Oui, j'aurais bien une question. Bonjour Isabelle, c'est Francesca Mizini. J'aurais une question par rapport à comment tes recherches et toutes ces questions que tu viens d'introduire sont en relation, si elles en ont pour le moment dans la littérature, avec la production entre pairs et la peer production et ce type de littérature-là. Et voilà, j'étais juste curieuse de savoir où est-ce que ça se croise le plus, si c'est le cas, avec quel cas d'étude.
Oui, alors, oui, tu as raison, je n'ai pas beaucoup présenté où situer les travaux. Alors, peer production, moi, ce que j'ai vu, il y a en fait, c'est comme toutes les studies, c'est très multidisciplinaire. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de sciences de l'information, de la communication, des Internet Studies, et puis il y a beaucoup de sciences de l'ingénieur aussi. Il y a de l'anthropologie et de l'ethno. Il commence à y avoir des travaux sociologiques,
Mais au moment où je faisais mes enquêtes, il y avait très peu de travaux sociologiques. Je vais en parler, il y a beaucoup de travaux sociologiques sur les makers aujourd'hui, de jeunes travaux formidables. Mais au moment où on a fait notre enquête, nous, 2012-2017, on a cherché, on a vu très peu de travaux sociologiques, en fait, en peer production, sur les communs productifs ou sur les monde makers. Voilà. Donc, effectivement, on traite du même objet, mais j'ai passé du temps peut-être un peu trop, du coup, sur ce regard, parce que justement, on avait du mal à retrouver une approche par l'organisation du travail dans ces premiers courants qui se développaient.
Ok, super. Pendant la question, je me suis permis, par curiosité intellectuelle, de lancer un petit sondage que vous avez vu apparaître pour savoir un petit peu plus qui vous êtes, en tout cas en termes d'appartenance par rapport au monde académique. Donc je le vois qui se remplit. Là, dès que je mettrai fin au vote dans quelques instants, et je vous montrerai le résultat. Isabelle, okay. Peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il d'autres questions ?
Je continue.
Oui, peut-être.
Je reprends. Oui. Alors, premier cas, donc, avec tous ces fils, le cas du mouvement Maker. Donc, il repose sur une enquête sociologique longue. On était nombreux. Entre 2012 et 2017, on a fait une trentaine de lieux dans le monde, aux États-Unis et beaucoup en France, à Berlin, au Sénégal. Et puis une vingtaine d'événements, une cinquantaine d'interviews et puis toute une série d'observations participantes. Donc, à ce moment-là, en 2012-2013, il n'y avait pas… C'était un objet un peu rigolo, quoi. Enfin, il n'y avait pas grand monde qui s'y intéressait. Et puis, voilà. Donc, je retrace qu'est-ce qui s'est passé d'abord dans ce mouvement. Donc, je vais parler de la façon dont, du regard que je porte aujourd'hui sur ce mouvement à travers trois moments, les origines, le moment de diffusion et l'étape de la crise sanitaire où il s'est passé une mise en forme de ce qu'on a pu appeler une micro-fabrication distribuée. Des écosystèmes de micro-fabrication distribuée et puis les questions qui se posent aujourd'hui. Alors, de quoi parle-t-on d'abord, tout simplement chronologiquement, quand on parle du mouvement Maker? On parle essentiellement au départ des Fab Labs, des Tech Shops et des Hackerspace qui ont une activité en fait productive ou de fabrication, de détournement d'objets et qui vont utiliser qui vont utiliser des nouvelles technologies qui sont arrivées, qui sont les machines numériques et les imprimantes 3D, pour, au sein de l'économie du libre, avec des modèles en open source, etc., créer des objets. Alors, ça peut être n'importe quel objet, ça peut être des objets pour réparer un vélo au départ, des pièces de vélo, des pièces en plastique avec l'imprimante 3D, des pièces électroniques pour construire un ordinateur, où ça a pu être, comme au moment du début du mouvement Maker, des prothèses de main avec des modèles qui ont été inventés dans des Fab Labs à Rennes ou ailleurs, ou même des imprimantes 3D qui se répliquent elles-mêmes, donc des modèles d'imprimantes 3D qui fabriquent des imprimantes 3D. Donc, au départ, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ce mouvement vient du terrain. C'est-à-dire que le premier Fab Lab, c'est un community organizer du centre de Boston à la fin des années 90, M. King, noir américain, qui crée un lieu pour démocratiser la technique et l'accès à la technique et l'apprentissage par la technique pour les noirs pauvres du centre-ville du Inner City bostonien. Pourquoi ? Parce que Boston, c'est une ville où il y a 36 universités, il y a le MIT, il y a Harvard. Il y a 600 000 habitants, c'est la plus grande concentration de savoir d'université du monde par nombre d'habitants.
Et en fait, il y a énormément de gens qui en étaient exclus. Donc, il dit, on va créer quelque chose qui permet... voilà. Donc, 2002, le premier Fab Lab, c'est un physicien quantique, Bakyak Mikak, qui les invente. On raconte toujours que c'est Neil Gershenfeld, ce n'est pas vrai. En fait, ça vient du terrain au départ, ce n'est pas le MIT au début. Et c'est récupéré après par le MIT comme une expérience, comme un cours pour tout le monde. Et il va y avoir des institutions qui vont se fonder, la Fab Foundation notamment, une charte des Fab Labs, et ça va se diffuser. Et ça va se diffuser très vite. Même chose, origine des hackerspace et des tech shops qui ont pour la plupart du temps disparu. Donc, dans un premier temps, en fait, on voit apparaître des premiers lieux, des premières expérimentations qui se situe en fait entre une culture de la main, du matériel, et une culture du numérique, du virtuel. Les makerspaces commencent par se définir par une convergence entre des hackers d'Internet et des artisans traditionnels. Quand on va dans les lieux, c'est ce qu'on voit. Si je prends Artisan Asylum, qui est le plus grand makerspace de la côte est américaine, 5000 m², quand il se crée en 2013, il y a 50% de création d'emplois en plus à Somerville, qui est une banlieue de Boston, qui apparaît dans les chiffres. Pourquoi ? Parce qu'il y a une soixantaine d'artisans qui s'y installent pour faire de la fabrication numérique. Et donc, il y a des petites boîtes, des petits emplois qui se créent. Alors, progressivement, il va y avoir en 2005 la création de la revue MEC, et ensuite, qui regroupe, alors ça a sauté, qui regroupe en fait une culture de faire par soi-même, c'est américaine, qui est assez états-unienne, qui repose sur cette culture très ancienne aux États-Unis de la self-reliance. On a beaucoup traduit Thoreau et Emerson dans les librairies. Il y a des petits bouquins partout de Thoreau aujourd'hui, notamment Walden, La vie dans les bois, parce que ça rencontre le mouvement écologique. C'est une forme d'autonomie qui vise à l'autarcie. C'est-à-dire, le self-reliance, on l'a traduit par confiance en soi. Je trouve que c'est une mauvaise traduction. C'est ne compter que sur soi. Donc, c'est un mouvement où Thoreau, donc, il était allé dans les bois, il avait construit sa maison, il avait tout construit par lui-même. Il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle les tiny houses, où on construit sa propre maison avec dans ce type de lieu, etc. Plus politiquement, si on regarde le récit politique cette fois-ci, ce qu'on trouve derrière les makerspaces et le mouvement maker au départ, c'est une critique du capitalisme vertical, de l'économie standard et de la consommation de masse. Ce n'est pas une critique de l'économie de marché. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir du marché et passer dans du troc, des sels ou des communs hors marché. Il s'agit juste de casser la verticalité et l'économie de rente pour revenir à ce que permet ces technologies, c'est-à-dire de la fabrication personnelle et personnalisée. Donc, qu'est-ce qu'un makerspace au départ ? Une organisation ouverte qui rassemble des individus désireux de mener à bien des projets de fabrication. Ce sont des lieux physiquement situés où on retrouve une série de machines à disposition, découpeuses laser et fraiseuses numériques, etc. En France, elles sont sous statut essentiellement à but non lucratif, les Fab Labs et les makerspaces. Au Sénégal, au contraire, ça va être des statuts d'entreprise qu'on détourne, ou aux États-Unis également, à Berlin aussi. Et ce sont des lieux, décidément, j'ai mon PowerPoint qui saute, ce sont des lieux de promotion et d'application des principes et valeurs issus des mondes du libre, de l'éthique hacker et du monde du do-it-yourself qu'ils vont transformer en do-it-with-others, c'est-à-dire en faire ensemble. Les makerspaces apparaissent, donc on peut dire que le mouvement prend forme autour de 2005 aux États-Unis, hein, ce n'est pas encore arrivé complètement en France, et 2013-2014 en Europe, après qu'en fait des politiques s'en soient saisies. Alors, par exemple, en 2015, Obama déclare les États-Unis « Nation of Makers » et réunit toutes les organisations makers à la Maison-Blanche. En France, c'est Fleur Pellerin qui lance un appel Fab Lab en 2013 et tout d'un coup, on a 600 Fab Labs qui fleurissent en France. En Chine, il y a aussi une politique qui est très critiquée aujourd'hui par des travaux de transformer Shenzhen, qui est la capitale de production de microéconomique, en immense écosystème de makerspace. Donc, ça apparaît, je ne redis pas ce slide, ce que vous connaissez, mais au milieu de toute une série d'autres façons de produire et d'expérimentation d'autres façons de produire. Je ne reviens pas, mais juste une remarque. Je voudrais juste qu'on remarque à quel point le discours a changé de 4 ans ou 5 ans à chaque fois sur ces nouvelles formes qui sont apparues. Google et Yahoo, c'était des utopies au départ, productives. C'était extraordinaire, on travaillait autrement, il n'y avait plus de subordination. L'économie du partage, la sharing economy, c'était encore une fois quelque chose d'incroyable. Et puis après, en 2006-2009, on a eu un premier tournant avec les plateformes propriétaires et la gig economy. Une réponse en 2015 avec le mouvement du plateforme coopérativisme. Et puis, entre-temps, ces lieux un peu à l'écart que sont les makerspaces qui ont continué de se développer. Seconde étape, rapidement, c'est l'élargissement et la structuration. On voit qu'il y a un décollage dans la courbe au début, autour des années 2008-2009. 2009, c'est la date du premier makerspace en France, Artilec à Toulouse, par quelqu'un qui revient du MIT, un PhD qui revient du MIT, qui a vu ce mode de fonctionnement et qui souhaite le faire fonctionner. Alors, il y a des choses qui se travaillent quand on va faire de l'observation participante, il y a des choses qui s'inventent comme forme de coopération et forme de production et de coopération dans ces lieux. Alors, un premier qui a été travaillé notamment par Shirley Turkle, qui est bien expliqué, c'est qu'on y travaille sur un modèle idéal du travail de conception, où ça vient du code en fait. On ne dérange pas, on y travaille seul a priori, on vient avec un projet autonome, mais on est ensemble. Donc, il y a des codes du faire ensemble qui fonctionnent sur le fait d'arriver avec un projet et de collaborer. Dans ces lieux, à part l'imprimante 3D qu'on y a inventée, on y invente aussi des formes de liens sociaux par le travail et des formes de travail qui sont les hackathons, les unconferences, les 5 minutes of fame. Ça va surgir aussi dans ces lieux, pas que dans les makerspaces, aussi dans les mondes hackers et mondes du libre. Et cela va se diffuser. Donc, il y a un moment où les Fab Labs et les makerspaces vont se démultiplier dans le monde. Et en même temps, ces techniques de ces lieux qui viennent du bas vont commencer à se diffuser beaucoup plus largement dans le reste de la société, notamment les hackathons vont commencer à utiliser d'autres outils empruntés aux entreprises comme le design thinking ou toute une série d'autres méthodes. Je passe troisième étape. Jusqu'alors, on est encore dans des récits, dans des façons de regarder je cherche juste un slide que je n'ai pas passé mais je ne m'en trouve pas, c'est pas grave dans des façons de regarder la possibilité de produire autrement en relocalisant la production. On ne voit pas très bien comment on va se mettre à produire des voitures ou sortir des chaînes globales d'approvisionnement industriel avec les makers, ça reste une utopie. Mais il y a quelque chose qui bascule au moment de cette troisième étape qui est la crise sanitaire. Donc là, je renvoie au discours des acteurs eux-mêmes qui vont eux-mêmes dire au moment de la crise sanitaire que vous avez peut-être suivi, les makers font leur apparition dans l'espace public parce qu'entre mars et avril, tout d'un coup, ils réussissent à s'organiser sous trois formes que je vais citer pour se mettre à produire des biens de première nécessité qui ne sont pas là. Il y a une pénurie du fait de la rupture des chaînes d'approvisionnement mondiaux. Alors, ça va être les visières, les masques, le matériel de protection pour les soignants, des pousses seringues, du matériel médical. Les hôpitaux de Paris vont acheter 60 imprimantes 3D et recruter des makers pour fabriquer du matériel. Ça a duré 3 mois. Mais dans ces 3 mois, ils ont fabriqué 500 000 de visières avec des systèmes, des écosystèmes locaux. Il y a des plateformes qui ont été créées en 24 heures qui mettaient en relation des demandes et des besoins des hôpitaux, des soignants, des commerçants et des lieux de production qui pouvaient être des individus qui avaient une imprimante 3D ou des Fab Labs, etc. Ça s'est fait à un niveau régional. Il y a eu l'écosystème de Nantes, celui de Normandie. Il y a des couturières qui se sont mises dans l'histoire, couturières solidaires, des coopératives, des petites PME qui ont proposé leurs services pour livrer notamment, un prix fictif qui a été fixé pour les matériaux, et puis tout d'un coup, une mise en commun aussi de la récupération de matériaux, ce que savent très bien faire les makers. Dans les stocks ou dans les caves des entreprises, on allait chercher des feuilles de plastique pour faire les visières, etc. Donc, il y a des cadres d'entreprise qui se sont mis aussi à aller chercher les stocks pour les donner pour pouvoir fabriquer. Donc, il y a une chaîne, un écosystème productif multi-acteurs distribué qui s'est constitué jusqu'à produire, en fait, en nombre, 500 000 de 250 000 visières au départ jusqu'à 500 000 ensuite, un nombre conséquent, une production alternative de biens qui étaient en pénurie. L'effort n'a pas été soutenable, c'est-à-dire que ça s'est arrêté. Ce n'est pas possible, ce sont des bénévoles, les prix, etc. Néanmoins, on a vu émerger quelque chose qui était un écosystème à un autre niveau productif qui pouvait produire en quantité. Les makers eux-mêmes se sont mis à dire, notamment le réseau français des Fab Labs, on est sorti de l'utopie. On est un système alternatif crédible. Et moi qui accompagnais un tout petit peu ce qui suivait à ce moment-là, mais il y a d'autres gens qui font des thèses là-dessus, qui ont plus d'informations que moi, je citerai tout à l'heure, se sont mis à dire il nous manque en fait les institutions, le droit du travail, les formes de statut qui reconnaissent en fait le travail contributif, qui est un travail qui n'est pas un travail gratuit, qui n'est pas un travail salarié, ou sous forme d'emploi, mais qui a un travail contributif qui peut se faire de cette façon-là et qui stabilise ou pérennise des systèmes multi-acteurs. Donc, voilà où on parvient. Il y a une multiplicité de microsystèmes auto-organisés qui se sont mis en place, des couturières solidaires, des Fab Labs en réseau, des hôpitaux, etc. Il y a eu l'histoire que vous avez peut-être vu passer du Mac Air, qui était ce respirateur qui a été construit par des acteurs qui se sont enfermés pendant 4 semaines, qui ont sorti leurs produits en libre, donc avec un modèle libre, qui coûtait 1 000 € à fabriquer le 21 avril. Le 20 avril, Air Liquide annonçait qu'avec l'argent du gouvernement, le respirateur à 11 000 € ne fonctionnait pas. Donc, il y a eu aussi un moment sur TF1, sur les chaînes télé, de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce système est plus efficient que le système et l'économie traditionnelle? Dernière étape, et je m'arrêterai là avant de faire quelques commentaires, il y a aujourd'hui du coup une prise de conscience réflexive chez les makers qu'on ne prenait pas au sérieux, que c'était du loisir, c'était du bricolage et c'était à côté de l'économie, en dehors du système. Est-ce qu'on peut pérenniser ces systèmes, écosystèmes locaux et les instituer? Donc les derniers sommets se sont faits autour Fab City Summit, notamment d'initiatives où les villes interviennent pour essayer de créer des circuits courts qui comprennent ces lieux-là pour créer une production alternative locale. Alors, je cite quelques références tout de même avant de passer aux commentaires. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vous donne 3 sites. Donc, les histoires de citoyennes fabricantes, c'est par exemple un blog qui raconte toutes ces histoires pendant la guerre sanitaire, où il y a des témoignages. Ou Fabrique Commun, qui est une plateforme de micro-production distribuée ou qui met en relation donc, les makers sous forme coopérative. Vous avez les articles cités. On a une critique qui se développe. J'ai cité la Chine et Shenzhen, par exemple, le dernier livre qui est paru en septembre 2020 sur la Chine, un très, très bon bouquin ethnographique avec 10 ans d'enquête, Prototype Nation, à Princeton University Press, montre comment ça peut être récupéré entièrement comme un système productif par le pouvoir chinois, notamment des circuits courts, des productions à la pièce, en petite série. Et puis, pour ceux qui veulent continuer, il y a des travaux de recherche récents à dimension sociologique sur les mondes makers, des thèses et des publications en cours qui continuent. Moi, j'ai arrêté mon enquête. Je citerai juste au passage, en espérant vexer personne, dans ceux que j'oublie, Favli Génatio, Constance Garnier, Sandrine Lambert ou Julie Fabry, qui sont, il y a un courant maintenant de recherche sur ces mondes alternatifs. Alors, je vais refaire une pause maintenant, peut-être, après ce premier cas. Jean-Marc ?
Oui, voilà, je rétablissais mon micro. Juste, je vous affiche les résultats du vote de qui vous êtes, sans faire de commentaires, mais voilà. Y a pas mal de questions qui sont arrivées sur le chat, de questions ou de commentaires. Peut-être j'en sélectionne quelques-unes. Une question qui est arrivée dans ton premier module, mais que je n'ai pas vu passer, d'Olivier Alexandre, qui aimerait bien avoir des précisions sur la manière dont tu définis les travailleurs de l'IA.
Oui, est-ce que je peux garder cette question sans vexer, pour la deuxième partie
parce on
que
la garde,
je vais en parler.
Pas de souci, on la met au frigo, pas de problème. J'ai une question de Tiffaine Carton qui serait intéressée par ta définition du mot plateforme dans le cadre de ce mouvement des makers.
Ah oui, alors là, on ouvre un immense débat parce qu'il y a je ne sais plus combien de travaux depuis une dizaine d'années qui tentent de classer les plateformes entre plateformes de marché, plateformes de travail, les modèles économiques entre Google, etc. Donc, on a un atelier au labo, au LISE, d'une dizaine de personnes qui fonctionne où on a passé 2 ans à essayer de définir, d'un point de vue sociologique, ce qu'était une plateforme. Et en fait, il y a une polysémie. On a des cas qui se définissent comme plateforme. Jean Tirole nous dit que les premières capitalistes boursières sont toutes des plateformes aujourd'hui, et donc c'est des intermédiaires entre des marchés, des acteurs, etc., qui mettent... Voilà, mais sauf que moi, je trouve que c'est faux, parce que là-dedans, il y a Apple, il y a Microsoft, depuis quand, qui ont été fondés en 76 sur du hardware, depuis quand c'est des plateformes, peut-être aujourd'hui, mais bon, je vois pas. Donc, en fait, la façon dont moi, j'utilise le terme, c'est en reprenant l'usage qui est aujourd'hui dans le monde économique de définir une économie de plateforme, un catalyse de plateforme en citant un certain nombre d'entreprises. Donc, je ne revendique pas une définition personnelle, c'est-à-dire que quand on classe ou qu'on parle de l'économie de plateforme, y compris Tirole, on va citer Google, Uber, Airbnb, Mechanical Turk, etc. On va distinguer avec les plateformes des plateformes de marché ou des plateformes de type Google qui ont un business model où il y a du gratuit et puis de la publicité qui fonctionne et sur une économie de données, des plateformes de travail, c'est-à-dire de mise en relation des intermédiaires du marché du travail, ou de Uber qui se présente comme ça, mais qui serait du salariat ou un système de travail domestique déguisé. Donc, en fait, pour le dire autrement, moi, je travaille essentiellement sur les plateformes de travail dans le monde de la sociologie du travail. On s'est d'abord intéressé à ça, mais je vais parler tout à l'heure, par exemple, des GAFAM. Voilà. Des GAFA, donc dans le deuxième exemple, et des travailleurs des GAFA. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien, mais...
Deux dernières questions peut-être avant ton troisième module. Question courte, réponse courte autant que possible. Une de Sébastien. Avez-vous des pistes sur les institutions qui seraient nécessaires pour mieux reconnaître et rémunérer le travail contributif des makers ?
Alors, il y a des pistes, ce n'est pas moi qui les donne, ce sont encore une fois, les acteurs de terrain qui sont en train de travailler à ça. donc, et de développer des cas. Donc, il y a des pistes dans le droit, mais moi, je trouve que les mondes sociaux, en fait, au sein des communs, est extrêmement actif. Je citerai, par exemple, à Saint-Étienne, Oxamine, qui est un lieu, donc, un makerspace avec... Oxamine, c'est une petite coopérative qui permet de vivre, au makerspace de vivre. Ils sont en train de discuter avec la CGT, qui porte leur projet au niveau européen, d'un CDI partagé, d'un contrat à durée indéterminée qui pourrait être partagé entre plusieurs personnes. On voit bien qu'il s'agit de détourner, il y a une première stratégie qui consiste à détourner les institutions du travail en place, contrat de travail, pour pouvoir avoir accès à quoi ? À la protection et aux droits sociaux associés au contrat de travail et à l'emploi, puisque c'est ça qui nous donne la protection sociale. On est un État social qui fonctionne sur le travail et qui fonctionne sur le travail et essentiellement le statut d'emploi. Donc, si on n'a pas d'emploi, on n'a pas accès à la sécurité sociale, à la retraite, aux droits sociaux et au chômage, etc. Tous les modèles nationaux ne sont pas comme ça, hein. Mais nous, dans le système français, les droits sociaux sont associés à l'emploi, au statut d'emploi. Donc, il y a des premiers efforts, et c'est la même chose qui se passe avec Uber ou autres, quand on essaie de requalifier en travailleurs salariés. En fait, parce qu'il y a les assurances sociales et la protection sociale qui va avec. Donc ça, c'est une première stratégie qui existe dans le droit, qui existe chez les acteurs. Il y a une seconde stratégie qui consiste à créer de nouvelles institutions. Donc ça, c'est en cours, aussi dans des mondes réformistes. Il y a le statut de SCIC qui a été créé il n'y a pas très longtemps, SCIC. La SCIC, c'est quoi ? C'est une coopérative, mais dans laquelle on peut mettre des membres qui sont, par exemple, la région, d'autres associations et pas seulement ceux qui travaillent, par exemple, dans un makerspace. Donc, c'est un statut coopératif pour un écosystème. Donc, ça a été créé il n'y a pas très longtemps. C'est différent de la SCOP, qui est un autre statut. Donc, il existe des nouveaux statuts de ce type-là. Il y a des acteurs comme Smart, par exemple, que j'ai cité, SmartBee, la coopérative d'indépendants, qui va plus loin, ils poussent le statut, ils sont mis en première ligne, par exemple, dans la grève des livreurs de vélos, de Deliveroo, qui, en Belgique, le premier conflit, ça a été Deliveroo, qui est à Londres, qui interdisait à ces livreurs à vélo d'être membres de Smart, qui leur donnait la protection sociale, c'est-à-dire un statut salarié, pour pouvoir continuer. Il les désinscrivait, il les déconnectait. Et la première grève, ça a été ça. Pouvoir être en coopérative d'activité, etc. Donc, en fait, il y a toute une série d'initiatives, une émergence que je pourrais... Mais en tout cas, une des premières choses, c'est qu'il y ait une prise de conscience collective, notamment des pouvoirs publics, qu'il existe, que ces activités ne relèvent pas du loisir et du gratuit et du bénévolat, pour créer finalement des statuts qui leur correspondent. C'était complètement inimaginable avant la crise sanitaire. Il y a un petit début de dialogue dont on ne sait pas ce qu'il va donner, qui a commencé à s'amorcer pendant la crise sanitaire. Les représentants des la RFF notamment ont rencontré les pouvoirs publics pour essayer de discuter sur une forme de reconnaissance et d'accompagnement du travail bénévole et de pérennisation des lieux. Donc, moi, je n'ai pas de réponse magique. Hein,
ouais. Merci, Isabelle. Excuse-moi, je te coupe un tout petit peu pour qu'on puisse avoir du temps pour la suite de l'échange et ton troisième module. Peut-être une toute dernière question de Thierry Secville. Est-ce qu'on a une idée du taux d'implication des universitaires dans les structures de type Maker Place ? Alors, je ne sais pas, peut-être faudrait préciser aux États-Unis, en France, en Europe.
Est-ce que tu peux répéter, excuse-moi, je t'ai mal entendu.
Est-ce qu'on a une idée du taux d'implication opérationnelle des universitaires dans les structures de type Maker Place ?
Alors, on avait fait sur la France des profils de Maker et on avait trouvé 7 profils. Ce qui ressortait surtout, c'est à plus de 70%, c'est qu'on avait des gens qui étaient très éduqués.
c'est-à-dire qui étaient niveau master ou plus. Et on avait effectivement des gens qui viennent des sciences sociales, des chercheurs dans ces mondes des makerspace, de façon en étant surreprésentés, des ingénieurs aussi, bien sûr. Mais il y a aussi des makers qui viennent du monde de l'éducation populaire, du monde associatif, des artistes, des artisans, comme je l'ai dit. Donc, il y a une forme de mélange qui varie beaucoup suivant les lieux, hein, parce qu'il y a une très, très grande, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire, dans la montée, il y a eu une très, très grande diversité, bien sûr. Tout le monde peut se dire maker, ça, hein, depuis le lycéen, l'étudiant, jusqu'à la couturière, hein. Et dans les lieux, il y a une très, très forte diversité de positionnement politique. Il y a des Fab Labs, je pense à un des créateurs de Fabrique Commun, notamment, qui a fait uniquement de l'inclusion de chômeurs dans son Fab Lab. Et puis, il y en a d'autres qui créent des startups. Donc, en fait, on est dans un monde très divers, en fait, aujourd'hui.
Grande diversité. Ok, super. Je suis désolé, je vais en frustrer certains. Il y a des questions. Voilà, on va pas avoir le temps de passer toutes les questions. Il reste à peu près 35 minutes pour peut-être, Isabelle, ton troisième module.
Oui, alors, le... Donc, sur... je repartage. Excusez-moi, je suis pas très rapide. Donc, j'en arrive au troisième cas. Ça saute tout le temps. Là, c'est une ouverture vers le débat à propos d'une enquête qui est encore en cours et que j'ai commencé en 2016. Donc, j'étais aux États-Unis entre 2015 et 2017, c'est-à-dire au moment où s'est développé un tournant critique fort, qui est concomitant de l'élection de Trump, du scandale de Cambridge Analytica à la suite, un mouvement critique très fort, y compris chez les travailleurs des GAFA. Donc moi, pour répondre à la question précédente, alors je travaille avec d'autres personnes, notamment des doctorantes qui essayent de cartographier justement les travailleurs de l'IA. Voilà. Et moi, je vais parler essentiellement des machine learners, et qui est un monde social de la de recherche, mais qui est aussi présent chez Google ou dans d'autres, ou Facebook, ou Microsoft, ou IBM. Voilà. Et puis, des travailleurs de la tech et de leur mouvement critique. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que... là aussi, on a eu un récit utopique enchanté sur l'intelligence artificielle et sur l'économie des données qui était portée par des acteurs au départ et qui était portée par notamment les travailleurs, enfin les salariés, les machine learners eux-mêmes. Et il y a eu un moment, donc pareil, un petit bilan, une petite histoire à raconter d'évolution de ce récit. Il y a eu un moment où, de basculement de ce discours enchanté que j'ai essayé de dater avec une prise de conscience des problèmes, hein, ou des questions que l'intelligence artificielle et ses usages pouvaient poser aux démocraties sociales. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ça, parce que je vais rester sur mon sujet, c'est-à-dire le travail, en fait. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde le travail, donc des données, ou le travail productif, et qu'on essaye de faire autrement. Mais quand même, dire que finalement, en 2013-2014, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. On parlait de machine learning, d'objets augmentés, de data science, d'automation, de robotique. Le terme est arrivé après pour coiffer, et les machine learners eux-mêmes rejetaient le terme. Pour eux, il était trop large, pas intéressant. Mais il est apparu à un moment où ce qu'on appelle, et que je vais appeler quand même intelligence artificielle, a fait des progrès rapides avec l'arrivée du deep learning. C'est à peu près en 2016, il y a eu des progrès extrêmement rapides en reconnaissance visuelle, en reconnaissance du langage, dans un autre domaine de l'intelligence artificielle de recherche qui est l'aptics, qui est les objets avec des capteurs du toucher, donc, et l'arrivée des applications blockchain. Et il y a un discours critique qui a commencé au sein de ce monde social professionnel des machine learners eux-mêmes, qui portait sur quatre familles de critiques. La question des droits et de la liberté, des libertés fondamentales, la reconnaissance visuelle, vous voyez bien, ça pose des problèmes de liberté fondamentale. La question du travail, l'automation du travail, la question des biais, des discriminations, de l'inclusion dans les algorithmes qui ne voyaient pas, vous le savez, d'autres gens, et la question de la sécurité et des infrastructures critiques. Donc, je reviens sur une histoire que tout le monde connaît. Ça, c'est Joy Beulawini, qui était une étudiante de Ethan Zuckerman au MIT, au Media Lab, dans le Civic Center. Tout ça a disparu aujourd'hui, après la crise MeToo. Ethan est parti et ça s'est déplacé dans d'autres lieux. Mais à ce moment-là, Joy Beulawini, pour le rappeler, elle entraîne des algorithmes au Media Lab. Et elle s'aperçoit que le logiciel de reconnaissance visuelle ne la voit pas, ne la reconnaît pas. Donc, elle se construit un masque blanc pour pouvoir être reconnue, en fait, et pouvoir entraîner l'intelligence artificielle. Ça, tout d'un coup, il y a une prise de conscience qui est d'abord éthique dans le monde professionnel des travailleurs de l'intelligence artificielle. Donc, une première critique qui se constitue. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2016, on a des initiatives où les entreprises sont présentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir Google, Facebook, qui vont essayer de créer des centres éthiques et qui les créent en partenariat avec les mondes de la recherche. On a aussi, c'est ce que vous voyez dans le deuxième paragraphe, des choses qui vont se créer à l'écart justement de Google ou des grandes entreprises qui sont AINAO Institute, par exemple, ou le Data and Society Intelligence Autonomy Initiative, qui existent toujours aujourd'hui et qui sont moteurs dans le courant technocritique américain. Et puis, il y a des conférences qui se créent avec une prise de conscience, comme la FAT conférence. La première a lieu en février 2018 aux États-Unis, à New York, où le monde professionnel demande à être régulé, à comprendre comment faire pour améliorer les algorithmes, comment faire pour ne pas rentrer, pas faire de mal, en fait. Et il y a toute une réflexion éthique qui se fait avec des social scientists. Et la première FAT conférence est composée de philosophes, juristes, chercheurs en droit qui se rencontrent dans des ateliers avec des machine learners et ils discutent ensemble pour essayer de se comprendre et de comprendre ce qu'ils peuvent faire pour construire des données et des algorithmes fiables, qui ne soient pas discriminants, etc. Donc, s'engage un débat, en fait, sur la construction sociale des données et sur les lieux et sur les façons de créer des collectifs qui vont pouvoir soit autoréguler dans les mondes professionnels. Ça va être, par exemple, les normes ou les standards des organisations professionnelles pour réguler les algorithmes. Alors, tout y passe. Bien sûr, ce n'est pas les algorithmes qui sont biaisés, ce sont les données. Toutes ces réflexions-là sont en débat dans des cercles, mais on voit bien qu'à ce moment-là, il y a une demande de régulation des algorithmes qui émergent des mondes du travail de l'intelligence artificielle et des salariés eux-mêmes, des GAFAM. Meredith Whitaker, qui a créé l'AINA Institute, c'est une ancienne de Google. À l'époque, elle est toujours chez Google. Elle va se faire licencier après, on va le voir. Mais à ce moment-là, elle est salariée de Google. Et elle est même salariée pour créer des instances éthiques qui contrôlent. Alors, si on veut... mon schéma n'est pas très bien. Je suis désolée, voilà. Alors, je vous cite un schéma d'un travail que j'ai publié qui essayait de repérer à ce moment de bascule dans les récits. Donc, on voit bien que ça arrive entre 2015 et 2016. Et puis, tout d'un coup, il y a toute une série d'instances le travail allemand publie un rapport qui va faire date en Europe qui s'appelle Arbeit für ou Work for, et qui est une critique de 60 propositions des conséquences de l'intelligence artificielle sur les démocraties sociales. Est-ce que ça peut faire exploser le pacte et le contrat social dans les capitalismes du type allemand ou français? Il y a des rapports de grands cabinets de conseil, McKinsey, Oxford OpenAI, qui est le monde du libre, etc., de la Banque mondiale, et puis des acteurs eux-mêmes qui sont tout d'un coup une inquiétude avec une demande de régulation et de droit qui peine et de contre-pouvoir sur les GAFA. Si je continue dans mon histoire, hein, donc de monter de cette transformation du série, il y a un second tournant qui arrive à l'automne 2018. Meredith Whitaker, notamment, organise une marche à la suite du mouvement de MeToo. Donc, il y a 20 000 personnes qui sortent, ça s'appelle un walkout, qui sortent pour protester. Là, c'est le walkout à San Francisco contre Google. Alors, on a enclenché depuis, avec Quentin Chaput, avec qui je travaille, un travail d'analyse des actions collectives qui vont à ce moment-là exploser aux États-Unis, à l'origine au sein des GAFAM ou de leurs sous-traitants ou de leurs contractants. On va avoir une augmentation, un mouvement de révolte des tech workers aux États-Unis qui va se développer. Et vous voyez qu'à partir de 2018 et de cette première marche de Google, ça explose. C'est-à-dire qu'on arrive à 30 à 35 actions par trimestre ou une centaine par an dans de multiples entreprises. Donc ça, c'est un travail d'analyse qu'on fait sur 327 actions collectives, essentiellement aux États-Unis, mais aussi à l'étranger, et essentiellement dans la tech. On reprend ça, en fait, d'un travail qui a été fait par la Tech Coalition, qui est un mouvement spontané de coalition des tech workers qui a émergé aussi en 2017. Donc, on voit qu'il y a cette mobilisation qui croît. Si on prend les GAFAM et Uber et Lyft, le décollage a lieu vraiment après cette première marche. Alors, ça utilise toute une série de mobilisations, la grève, la protestation, des lettres, des demandes de syndicalisation. On va voir apparaître les premiers syndicats aussi dans la Silicon Valley, des actions légales. L'un des premiers projets, ça avait été la mobilisation des salariés de Google contre le projet Maven, qui était en fait un contrat avec le Pentagone et qui utilisait des algorithmes qui avaient été conçus par les salariés de Google, et avec la suspicion que ces algorithmes pouvaient aider le Pentagone à construire des drones tueurs. Donc, le projet a été abandonné après la mobilisation. Je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est intéressant parce que j'ai pas souvenir, moi, dans l'histoire économique, notamment française ou mondiale, que par exemple un ingénieur de Dassault ait jamais fait grève pour que les avions d'Airbus ou je ne sais pas quoi ne soient pas vendus pour faire la guerre ou tuer des gens. Donc là, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on a une mobilisation et une grève pour contrôler l'usage du travail de création de l'algorithme, du travail des données qui a été fait. Donc, il se passe quelque chose de particulier donc, que j'essaie de noter. Alors, on a séparé les mobilisations en deux types, des mobilisations éthiques et des mobilisations sociales. Les mobilisations éthiques, en fait, elles accompagnent en fait des mouvements sociaux aux États-Unis. Elle porte à la fois sur la discrimination raciale, la discrimination sexuelle, les questions des migrants, la question de la surveillance, et puis la question du changement de climat. Bien sûr, on ne peut pas. Tout ça se démarre après l'élection de Trump tout ce qui se passe avec l'ICE, la douane américaine, les camps d'enfants, les frontières, les murs, etc. Donc tout d'un coup, il y a des. Et puis le mouvement MeToo également, fin 2017. Donc en fait, et puis après le mouvement Black Lives Matter. Donc on voit qu'il y a une jonction, qu'il y a des premières mobilisations, parce que dans certaines entreprises des GAFAM, donc de protestations, qui sont liées aux mouvements sociaux et à l'actualité sociale et à des questions éthiques. Mais cela s'enclenche et donne lieu de façon contagieuse à des luttes sociales. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement de revendication d'égalité salariale, de revendication de salariat des chauffeurs Uber en Californie. C'est la proposition AB5 notamment qui va être portée, y compris par des salariés de Google, qui vont se mobiliser de façon solidaire avec les travailleurs d'Uber ou avec des contractants. Et puis des démarches de syndicalisation qui sont très particulières aux États-Unis, puisque ça ne marche pas comme en France, puisque pour être syndiqué, il faut d'abord réunir les salariés, se mettre d'accord sur le fait d'engager un processus de syndicalisation et ensuite voter pour un syndicat unique. Et si le vote est majoritaire, alors il y a une cotisation qui est soustraite du salaire obligatoire, avec un engagement du syndicat de vous payer en retour, c'est-à-dire d'augmenter les salaires de façon à ce que l'utilisation soit... Donc, ça ne marche pas comme chez nous. C'est pour ça qu'on a un syndicat par entreprise avec des votes et une mobilisation. Donc, pour ça, il faut se mobiliser. Je suis toujours sur Amazon et Google pour montrer qu'en fait, il y a une relative concomitance et contagion. En fait, ce n'est pas un hasard. À l'enquête, on se rend compte que col blanc et col bleu vont commencer à faire des actions les uns pour les autres. C'est-à-dire se mobiliser sur les mêmes actions, y compris de façon inter-entreprise. C'est-à-dire avec pour des gens qui ne sont pas dans l'entreprise. Tout en sachant qu'aux États-Unis, quand on décroche, quand on fait grève, quand on se mobilise, on risque le licenciement. C'est un risque. On n'est pas protégé. C'est un risque. D'ailleurs, il y a énormément de gens de Google qui se sont fait virer. Et dans les blogs du Walkout, ils se sont tous fait licencier au fur et à mesure. Donc, je donne juste quelques exemples d'actions ici. Il s'agit de quitter son travail pour protester sur des questions éthiques. Pour Kickstarter, ils ont voté, ils ont aujourd'hui un syndicat. Bref, je vais passer un peu là-dessus. La loi AB5, qui a été destituée par une proposition qui vient d'être votée. Un petit schéma pour mettre en évidence, donc toujours sur ces 327 actions collectives, le fait qu'il y a à un moment donné, ça a l'air d'être peu, mais à peu près 5 actions par trimestre qui sont des actions solidaires, c'est-à-dire qui sont des actions soit inter-entreprises, soit pour d'autres travailleurs. Et je vais conclure en ouverture là-dessus en justement m'interrogeant sur ce qui se passe, donc à partir d'un regard de sociologue, sur ce qui se passe dans ces critiques et ces pratiques donc de protestation et de critique. La première question que ça se passe, que l'observation de ces actions pose, c'est que moi je les range dans une revendication par le travail de créer un contre-pouvoir interne au GAFA, même s'il est modéré dans un premier temps, pour reconquérir une forme de nouveau droit de regard sur les usages du travail des données. Donc, les usages du travail de conception. Ça, ça me semble un premier point qui est relativement nouveau et qui n'existe pas dans l'histoire du droit du travail qui a précédé ou des mobilisations collectives. Une deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que en entrant par ces protestations également, on voit une forme de remise en cause en fait, de la division du travail qui a été mise en place, notamment par les plateformes. Lorsque les mobilisations se font pour les sous-traitants, comme chez Amazon, ou pour les livreurs d'Uber, il y a une forme d'action qui est en train de se développer, ou de conscience, ou de critique collective, sur la division du travail elle-même. Soit qu'elle porte sur la façon dont les plateformes organisent ou les travailleurs, les gig workers, soit sur justement les différences de traitement entre contractants et salariés. Je finirai sur juste une dernière remarque avant de donner la parole à la discussion. Ce qui m'a intéressé dans ces deux cas, au-delà de leur évolution et de la façon dont ces utopies à chaque fois meurent en fait et sont reformulées en termes pratiques, en termes de pouvoir hein, ou de contre-pouvoir à l'usage, c'est qu'on y voit aussi des modèles qui viennent du bas, qui viennent des mondes du travail, qui sont expérimentés. C'est ce que j'appelle l'artisanat augmenté dans le cas des makers, puisque ça revient quand même à sortir complètement de l'histoire de la division du travail. Si on jette un regard sur l'histoire de la division du travail depuis le 19e, on s'aperçoit qu'en fait, on a de plus en plus divisé le travail en micro-tâches, jusqu'à la micro-tâche aujourd'hui sur les plateformes, c'est jusqu'à la seconde et la minute, et puis à une autre échelle de façon globale, en élargissant le marché du travail ou la possibilité du travail. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le travail des plateformes du type Mechanical Turk, on se retrouve avec un travail en micro-tâches global. Tout le monde peut travailler en Inde, en Chine, aux Philippines, etc. Ça, c'est la tendance de l'histoire de la division du travail. Le makers rompt radicalement avec ça, puisqu'il relocalise une production en circuit court autour d'une fabrication unique, personnelle, en petite série, grâce au numérique. Donc, c'est la sortie, pour moi, non pas du capitalisme, mais de la division du travail. Le deuxième chose donc, intéressante que j'ai soulignée plusieurs fois, c'est comment dans les plateformes, les principales plateformes propriétaires, est en train de se constituer un contre-pouvoir que n'arrivent pas à mettre en place les États. On verra ce que donnent les procès des 50 États américains contre Google grâce à la loi antitrust, mais pour l'instant, on a cette question de faire émerger de nouveaux droits sur la production et de regard sur le travail qui est produit, sur les usages du travail. Donc, les usages des algorithmes, encore une fois, un nouveau droit des travailleurs qui s'est manifesté d'abord de façon éthique et ensuite dans des rapports et des combats en termes de lutte sociale classique en sociologie du travail. Voilà, je m'arrêterai là et je vais redonner la parole à la salle.
Super, merci beaucoup Isabelle. Écoute, pendant que tu parlais, on a pas mal de questions qui sont arrivées sur le chat. Notamment, par lesquelles je commence, une question de Carsten Willem. Comment cohabite le secteur de l'économie sociale et solidaire et l'associatif avec une, entre guillemets, utopie importée? Quel croisement, greffe, résistance, point de suspension?
Oui, alors c'est une très belle question. Et on l'a trouvée beaucoup sur le terrain. Alors, il y a deux choses dans la question. Il y a ce que suppose comme prénotion, entre guillemets, le terme de importer. Parce que Moi, ce que j'ai vu en France, c'est qu'effectivement, il y a une méfiance très forte enfin, il y a un attachement français à ne pas faire la différence entre économie de marché, c'est la différence brodélienne, économie de marché et capitalisme vertical. Donc, à partir du moment où il peut y avoir du profit, ça peut être commercialisé sur le marché, même si ça reste horizontal, etc., il y a une coupure dans les mondes makers et dans les mondes des Fab Labs, entre ceux qui vont travailler avec des entreprises et ceux, c'est hors de question, on va rester hors du marché du capitalisme. Et les deux sont associés et écrasés l'un sur l'autre. Donc, importer, moi, je trouve que faudra demander à d'autres que moi, les jeunes que j'ai cités tout à l'heure qui continuent toutes ces recherches, mais il y a des bricolages qui sont faits, bien sûr. Les makerspaces ne vont pas vous dire qu'ils copient les modèles américains. Il y a un bricolage national. En Italie, on dit que la tradition maker a été inventée par Léonard de Vinci. En France, on cite les magazines l'après-guerre, les castors qui avaient construit leur maison dans l'après-guerre et qui faisaient des communautés de construction de maisons. On peut citer le mouvement punk aussi pour le do-it-yourself. On peut citer des tas de mouvements alternatifs d'avant-garde qui sont des moments de résistance en fait à la standardisation du travail. Donc voilà pour une première remarque sur importer. Maintenant, la réponse à la question quand même. Ce que moi j'ai vu, en tout cas ce qu'on a vu beaucoup jusqu'en 2018 en tout cas, c'est qu'il y a un monde associatif qui n'y arrive pas du tout, notamment dans l'économie sociale et solidaire, parce que les normes culturelles de fonctionnement par subvention, dans le rapport au pouvoir public, dans le rapport avec des publics et extérieurs qu'on doit aider, qu'on doit accompagner, de façon verticale ou asymétrique, la séparation entre l'intervenant et le public, ça ne fonctionne pas. Et il y a d'autres mondes de l'éducation populaire ou de l'économie sociale et solidaire pour lesquels ça marche très bien, ce qui fait qu'on a en réseau des makerspaces, des recycleries, Emmaüs, des entreprises d'inclusion pour les chômeurs dans des microsystèmes locaux. Je pense à Montreuil. Ici, Montreuil, c'est un plus grand makerspace français. Il y a des gens qui travaillent, il y a un membership payant pour certains. Ils sont en lien avec des recycleries, avec des startups, il y a des incubateurs, enfin, il y a tout un écosystème local. Donc, et la grosse différence, on avait eu cette discussion ici à Montreuil lors d'une rencontre, lors d'un forum avec toute une série d'associations. La grosse différence, c'est est-ce qu'on est capable de travailler de façon ouverte, avec la transparence d'information, de façon horizontale et avec des outils collaboratifs. Donc, il y a à la fois une question de culture numérique, de culture de la transparence et de l'ouverture et de l'horizontalisation des relations. Et c'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire qu'il y a une barrière que moi j'appelais à un certain moment cognitive chez une partie des acteurs sociaux, y compris dans le monde associatif, qui ne parvient pas à comprendre ces façons de travailler. Parce qu'on retient l'information, parce qu'on crée une différence entre l'intérieur et l'extérieur, etc. Bon, tout ça, on le connaît tous très bien, puisqu'on est entre deux mondes, tous, plus ou moins, je pense, ici, aujourd'hui, ce monde d'avant, ce monde d'après, etc., qui est désigné comme ça. Mais il y a une vraie rupture culturelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Si, très bien, merci beaucoup.
Ok.
Une longue question de Tatiana de Ferrodi, mais qui a la gentillesse de la résumer en une phrase. Qui est responsable, sur ton deuxième terrain, qui est responsable de l'organisation matérielle de la mobilisation? Et notamment, est-ce que les travailleurs de différentes entreprises prennent contact les uns les autres?
Oui. Alors, on est en train de faire un travail avec Quentin qui n'est pas terminé sur... d'analyse des réseaux sur les acteurs. Mais ce qu'on voit déjà en cours de route, c'est que Il y a des modes d'organisation qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les mêmes dans Extinction Rebellion, dans les groupes Facebook des Gilets jaunes ou autres. Par exemple, la Tech Coalition fonctionne, moi je suis inscrite, hein, je suis dans le groupe de New York, fonctionne par des groupes locaux virtuels. On fait une application, on envoie son CV, on dit pourquoi on veut être là. Le groupe se réunit normalement physiquement. Et puis, en même temps, diffuse toute une série de matériaux extrêmement rapidement, des questionnaires à faire passer à son entreprise ou à ses collègues, des méthodes, en fait, des méthodes de community organizing qui existent aux États-Unis, c'est-à-dire des méthodes de mobilisation par le bas, c'est des grassroots movements. Voilà. Donc, qui est responsable? C'est à la fois des nœuds, comme dans le réseau Tor, hein, en oignon, des nœuds locaux qui vont se mettre de façon distribuée à organiser une action qui va se diffuser très rapidement. Donc pour les premières actions, par exemple, dans la tech, des tech workers à Silicon Valley, il y a eu des premiers groupes de la Tech Coalition, si on l'apprend, qui se sont formés donc à Mountain View, en Californie, quoi, globalement. C'est remonté tout de suite à Seattle. Ensuite, ça arrive à Berlin, à Londres, après à New York. Et à chaque fois, ce sont des volontaires locaux qui se constituent et qui ensuite organisent les actions avec ces nœuds, donc d'organisation intermédiaire. C'est du community organizing, en fait, le fonctionnement. Il y a des leaders, nous on voit, et essentiellement des femmes ou ce qu'on appelle les minorités visibles aux États-Unis. Donc, on est en train de regarder toujours avec Quentin s'il n'y a pas un lien très fort entre le mouvement MeToo et des leaders du mouvement MeToo dans les entreprises et ensuite les mouvements de syndicalisation. On retrouve un groupe de femmes, notamment, tout le temps. Vina Dubal pour Uber, avec une sénatrice de Californie qui a fait passer les votes, Meredith Whitaker, etc. Des noms que j'ai cités dans les moments éthiques, qui ont été des organisatrices visibles, en tout cas, d'un certain nombre d'événements, et qui sont en lien. Elles sont en réseau, elles sont connectées, elles s'organisent ensemble, elles se communiquent sur Twitter, et il y a des solidarités qui sont construites comme ça. Donc, si on prend les fils Twitter, on voit très bien que les actions se disent « Ah ben, moi, je vais… » etc. On voit se construire un certain nombre de choses. Donc, voilà les deux réponses que je peux faire. On voit des acteurs visibles, c'est un travail en cours qu'on va essayer de publier en juin, et il y a du grassroots movement et du community organizing par le bas. Donc, ce n'est pas les Anonymous, hein. C'est plus Télécomics, hein. C'est-à-dire des nœuds d'acteurs locaux qui sont en lien de façon plus ou moins anonyme et qui se coordonnent pour des actions mondiales, en fait, globales, puisque les actions sur Google, c'était dans le monde entier.
Ok, super, merci pour cette réponse. Complète de Tatiana de Ferrodi, j'imagine ça répond à votre question, mais le temps passe très vite en ta compagnie, Isabelle. Il nous reste une poignée de minutes. On va pas se quitter avant d'avoir vidé le frigo. Il reste une question au frigo, je te la rappelle, sur d'Olivier Alexandre, sur la manière dont tu définis les travailleurs de l'IA et du coup comment tu procèdes pour trouver des cas d'études dans cette catégorie-là.
Oui, alors j'ai pris le terme de travailleur de l'IA parce qu'il y a d'autres enquêtes qui sont en train de se faire de façon assez large, mais ce sur quoi j'ai travaillé, moi, c'est uniquement des machine learners. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont une formation en computer science et en algorithmique et qui construisent ou qui font ou qui travaillent sur des algorithmes apprenants. Donc, ce n'est pas toute l'IA, hein. Ce n'est pas la robotique, ce n'est pas l'aptique, ce n'est pas les data science, et ce n'est pas… voilà. Donc, voilà ce que je peux dire à ce stade, mais on reparlera avec Olivier, je pense. On aura l'occasion d'en reparler.
Ok, super. Alors, on a quelques commentaires de Christian Cazenave qui sont plus des commentaires et pas des questions. Peut-être, Christian Cazenave, si vous voulez reprendre certains de ces commentaires, c'est le moment. Êtes-vous là? Non, bah, écoutez, on arrive à, 15h30, du coup, si on n'a pas de dernière question, ce qu'on vous propose maintenant, pour ceux qui le souhaitent, c'est d'aller simuler une pause café dans un autre espace. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà expérimenté, ça s'appelait YoTribe à un moment, maintenant ça s'appelle Wonder. Je vais copier-coller le lien vers l'endroit en question dans le chat. Et hop, voilà, je suis en train de le faire. Donc voilà, si vous avez du temps, si ça vous tente d'expérimenter ça, on y sera, on y passe. Ah, on me dit panne de son. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, un grand, grand merci, Isabelle, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très inspirant, très riche. On dit ça toujours, mais vraiment, c'est très sincère.